When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Binge audio.
Création si belle.
Mon parrain Black Panther, épisode 5.
Nous sommes libérés le 23 mai 1980. J'ai 37 ans. Ça y est, on peut enfin reprendre une vie normale. Sans avoir de problème avec le système judiciaire ou la police. C'est une chance. Le début d'une nouvelle vie. Tout ça est derrière nous. Parce que c'est dur de vivre clandestinement. Ce poids qui était sur nos épaules depuis tout ce temps a disparu. Maintenant, je pense à l'avenir.
Une nouvelle vie peut-être, mais cette liberté retrouvée a un prix. Le gouvernement américain ne veut pas rendre leur passeport aux quatre de Fleury et maintenir le mandat international à leur encontre. George, Joyce, Melvin et Jean sont donc forcés de rester en France. Pas moyen de voyager ou de retourner aux États-Unis.
De toute façon, aux États-Unis, ça ne changera jamais. Le système ne va jamais changer. Le racisme a été inscrit dans la Constitution. Dès le début, ils considèrent les Noirs comme les trois quarts d'un homme. Quand nous étions en prison en France, les flics aux États-Unis surveillaient nos familles, se rendaient chez nos parents, ouvraient nos courriers. Ils ont fait peur à nos familles. Moi, je sais bien que si les Américains me mettent la main dessus, je ne sortirai jamais de prison. Je tourne la page. Je commence une autre vie. C'est quand même plus tranquille quand je ne vois pas un flic à chaque fois que je regarde derrière moi. Je n'ai plus peur quand j'en vois un. Je suis en règle. Il n'y a pas à avoir peur. Ici, je suis américain avant d'être noir. On verra dans le futur. Il y aura peut-être une solution pour que je retourne aux États-Unis. On peut toujours garder espoir. Il faut toujours garder espoir.
Garder espoir, afficher sa fierté d'être noir, c'est l'image qu'il m'a toujours donnée en tant que parrain. Étant enfant, je ne me suis pas rendu compte que George était un grand blessé. Aujourd'hui, il n'y a qu'Annie pour me raconter la partie la plus intime de son histoire.
C'était un taiseux, mais enfin, moi je l'ai vu, on a beaucoup parlé, donc je l'ai vu rire aux éclats et rire et dire des grosses bêtises et me faire hurler de rire. Moi, c'est pas difficile, mais et lui rire. Comme ça. Donc j'avais l'air d'une parfaite folle. Alors il était, si tu veux, il était. C'est vrai que c'était quelqu'un de solide. Moi, c'était mon mari et puis je l'avais un petit peu pris sous mon aile. Donc on a, tu vois, c'était en même temps pour moi quelqu'un d'un petit peu fragile que j'ai pris comme ça sous les bras et puis que j'ai mené jusqu'au bout, quoi. Tu vois. Alors c'est vrai que je pouvais compter sur lui de face, tu vois, toujours. Mais en même temps, c'était un moi, il savait qu'il pouvait se reposer sur moi, quoi. Je crois qu'il s'est accroché à moi puis qu'il m'a plus lâché. Hein.
Bien des années plus tard, Annie devient propriétaire de son petit deux pièces situé pas loin du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Je les ai toujours connus dans cet appartement. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre d'y retourner quand je vais interviewer Annie, parce que ça fait longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Elle me raconte qu'à ce moment-là, elle veut protéger George financièrement et elle lui propose qu'il se paxe.
On demande les papiers, alors le certificat de naissance en Amérique, on le fait traduire à Paris, on fait tout ce qu'il faut, je demande à la mairie du 20e une date, etc. Et il fallait quand même qu'il ait un papier supplémentaire au consulat. Bien, bon. Alors, c'est moi qui prends rendez-vous. On dit, non, mais même s'il n'a pas de passeport, il n'y a pas de souci, il peut venir. Il viendra un autre jour que les gens normaux. Mais on le reçoit, etc. Il y va, on lui dit, ah, mais comment vous n'avez pas de passeport? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors qu'il savait très bien, tu tapais son nom et t'avais tout sortait, quoi. Hein. La date du Pax arrivait. J'ai téléphoné depuis nos vacances. J'ai dit à la dame du 20e, non, on ne peut pas se marier. Enfin, on ne peut pas avoir le Pax. On n'a pas le papier, mais je vous garde la date. J'ai dit non, mais on va pas l'avoir. Donc j'ai appelé Georges-Paul Angevin et elle me disait, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, et que c'était tant d'années après. Et en fait, Georges-Paul Angevin a dû les contacter. Elle était députée du 20e. Donc elle a dit, je viens avec Monsieur Brown. Et là, ils n'ont pas osé refaire leur petit cinéma, donc ils ont donné le fameux papier. Sauf que là, elle nous a dit, c'est pas un pax que vous allez faire, parce que si vous changez d'avis, on recommence pas ce cinéma, donc vous allez vous marier. Et je voudrais vous marier si c'était possible. Et c'est comme ça qu'elle nous a mariés dans le 20e, tu vois.
Bien, donc nous avons procédé au mariage de Monsieur George Brown, retraité, né le 28 mars 1944. À Elisabeth, État du New Jersey, avec Madame Annie-André Courtemanche. Donc, vous pouvez y aller, vous êtes toujours décidé. Monsieur George Brown, consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Madame Annie-André Courtemanche, ici présente.
Oui.
Madame Annie-André Courtemanche, consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux Monsieur George Brown, ici présent. Au nom de la loi, nous déclarons publiquement que Monsieur George Brown et Madame Annie-André Courtemanche sont unis par les liens du mariage.
Le jour du mariage, c'est bien simple. À la fin, quand elle nous a eu mariés, qu'elle a eu fait son speech, ce qui était bien pour mes neveux, parce qu'elle replaçait dans l'histoire, tu vois, jusqu'à l'élection d'Obama, puisqu'on s'est mariés en 2010. Et alors après, ils se sont pris dans les bras, et les deux pleuraient, les deux George, puisqu'ils s'appelaient George tous les deux. Et alors, je disais, mais enfin, c'est un jour heureux, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça, tu vois, c'était rigolo.
C'est vrai, il est facile d'imaginer l'émotion de George. 30 ans après son procès, celle qui a participé à sauver sa vie, aujourd'hui célèbre son union avec la femme qu'il aime.
Pour moi, c'est quelqu'un qui avait vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un dont j'ai vraiment gardé, avec qui j'ai gardé une relation très... C'est bizarre à dire, mais d'estime et puis une forme de confiance. Oui. Il donnait de temps en temps des nouvelles puisqu'il envoyait ses vœux, etc. Et puis il habitait le 20e.
Les cartes de George et Annie. C'est vrai qu'ils n'ont jamais oublié un anniversaire. Pourtant, pendant mon adolescence, de mon côté, je ne prends plus trop de nouvelles. Mais les livres qu'ils m'ont offerts, la musique qu'ils me font écouter, m'ont toujours accompagnée, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je ne leur ai jamais demandé comment mes parents et eux se sont rencontrés. Alors là, j'en profite.
Alors, on est devenus amis avec ta mère, comme ça, assez proches, vraiment. Et puis après... Elle a rencontré ton père et puis moi j'ai quitté mon mari et puis après j'ai rencontré George et là alors on est devenus encore plus amis parce que ton père et George s'aimaient beaucoup. La première fois qu'on s'est vus, c'était quand George était sorti de prison puisqu'il était le dernier des quatre à sortir et avec Mike on avait dit on fait une fête chez nous et on avait invité Jean et Bernard. Et puis alors, George qui baragouinait le français et ton père qui parlait pas anglais, on n'a pas compris, ça a accroché tout de suite, voilà. Donc c'était assez rigolo, quoi.
C'est drôle de les imaginer tous les quatre à une fête ensemble. Je vois bien mon père et George baragouiner quelques mots en franglais autour d'un verre de rouge le poing levé. Et plus tard, ma mère dira à Annie qu'elle veut absolument que ses filles parlent anglais. Annie me raconte aussi les concerts des musiciens américains de passage à Paris qu'ils vont voir. Gil Scott-Heron, Prince, Stevie Wonder, Bobby Womack, Public Enemy et James Brown.
Un jour, on va à Bercy et on va voir James Brown. Et c'est les gens qui faisaient la sécurité s'appelaient les Panthères Noires. Moi, je ne savais pas du tout comment on a été... On a eu des billets gratuits. Enfin, on a été placés dans les VIP. Enfin, c'était assez rigolo. Et puis, il y a un des Panthères Noirs qui vient chercher George et qui dit « Il faut absolument que vous alliez saluer James Brown. » Alors, nous voilà partis, ce qui n'est pas du tout évident, hein, par derrière, dans les loges, etc. Il y avait des gens qui essayaient d'y aller. Ça, ce n'était pas du tout possible. Et puis, on attendait. Enfin bon. Et puis, le Panthère Noir en question de la sécurité dit « Oh, ben, moi, j'en ai marre, etc. Qu'est-ce que ça ?» Alors, il ouvre la porte de James Brown et il dit « Alors, George Brown, pour James Brown. »
À nous, George ne la racontait pas tellement son histoire. Et moi, je n'avais absolument pas conscience de ce qu'il avait pu endurer. Je faisais l'erreur de penser que parce qu'il avait survécu, tout ça était derrière lui.
Par exemple, une des conséquences de l'attentat de stress contre George, tu ne pouvais pas le faire sortir un 31 décembre. Ça, ce n'était pas possible. Tu vois, c'était une des séquelles. On restait à la maison. Chacun se levait à tour de rôle et mettait un CD qu'il aimait, ou un air qu'on aimait, et hop, on dansait. Et on faisait ça jusqu'à 3-4 heures du matin, tous les deux. Hein. Alors, il me disait, bon, remarque, c'est bien, parce que comme on danse tous les thèmes à cavalière, et qu'en plus, on chante et qu'on est à la maison, c'est cool, quoi, tu vois. Donc voilà, on a beaucoup milité ensemble, et on a beaucoup dansé et chanté ensemble. George faisait signer des pétitions, etc. Tout le quartier en avait raconté le bol, parce que c'était pour tout le monde, hein, tu vois, Léonard Pelletier, l'Indien, enfin, plein, comme ça. Et alors, tu vois, encore une anecdote rigolote, quand Geronimo est venu avec Angela Davis pour un... Je sais pourquoi, ils sont venus là. Ce soir-là, il était avec Geronimo. On venait de montrer sur Arte un documentaire sur Geronimo Pratt. Il arrive chez nous et George lui dit, bah viens, on monte dans la rue, moi je connais des cafés. Ils entrent et tous les mecs faisaient... Ils venaient de le voir à la télé la veille, ils avaient signé des pétitions. Et George disait, je vous ai embêté avec Geronimo, eh ben le voilà.
Le petit appartement d'Annie et George devient le lieu de rencontre habituel des Panthères à Paris.
Les Panthères ont été décimés, abattus. Enfin vraiment, il y a eu une répression féroce contre les Panthères noirs et on en a dit beaucoup de mal. Ils avaient besoin de sécurité et on leur avait dit, ben, allez chez Annie et George. Et puis, même si vous avez des détails pratiques, Annie est française, donc elle va pouvoir vous piloter, etc. et tout. Et donc, tout le monde défilait les uns derrière les autres. Alors, comme je te l'ai dit, notre appartement est minuscule, donc ils allaient à l'hôtel à côté de chez nous, que j'appelle toujours l'hôtel des Panthères. Et là aussi, j'imagine la tête des gens s'ils avaient... Enfin bon, passons. Et alors, après, ils venaient passer la journée avec George. Ah, George, il se sentait pas du tout français, hein. Non. Il était noir américain. Alors, il était très reconnaissant, hein, à la France. Mais tu sais, les exilés le disent tous, hein. Moi, j'ai vu un film sur le Cambodge. Le réalisateur cambodgien, il dit, mais j'ai plus de 50 ans, je ne pense qu'à ça, mes amis ne pensent qu'à ça. On ne vit que par ça. Et je crois qu'en fait, il le porte tout le temps. Alors, George disait toujours, ah ben, ce pays, je voudrais surtout pas y vivre. J'aimerais bien aller voir un petit peu le New Jersey et New York, ça me plairait bien. Mais il me disait, ce foutu pays, moi je voudrais surtout pas y vivre, etc. Mais moi je le voyais regarder CNN, tu vois. Et puis quand il y avait New York, vraiment tu sentais que ça lui faisait mal au cœur, quoi. Vraiment, tu vois, moi je lui avais juré de ne jamais aller aux États-Unis pendant qu'on était ensemble. And if Black Panther Party want to run political candidates and hold up their signs and keep guns in their home to defend themselves from racist pig cops who shoot up windows and murder black people in the black community, then let black people hold up the sign of the gun and use it to defend themselves. Everybody has the right to survive.
Where's the change at? Because right now we can Ray Perry another young black man. We thought if we got you in, by you being a black man, but it is what it is, that we would get a little bit of type of change. But you ain't did nothing.
No more brothers in jail.
All the same.
The pigs are gone and can't tell.
All the same.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.